Alors, la bibliothèque en vadrouille en ce 16 décembre 2017 à Bienne, Biel, où se tient depuis ce matin la Biennale de l'édition. Et nous sommes arrêtés ici, au stand Elis Hellas, avec Alexandre, l'un des membres de cette maison d'édition. Bonjour.
Bonjour.
Alors, peut-être tout simplement évoquer cette maison d'édition, tout simplement un peu sa présentation, sa carte d'identité, quand est-ce qu'elle est née, quelle est un petit peu la ligne éditoriale, et puis après peut-être qu'on pourra évoquer certains livres ou certains auteurs de votre catalogue.
Donc voilà, Elis Hellas, c'est déjà une maison d'édition qui naît sur les ruines d'une autre maison d'édition qui existait depuis le début des années 2000, donc les éditions Castanier, qui ont fait une dizaine d'années. Et donc Elis Hellas naît en 2011 avec un peu l'idée d'être un projet éclaté entre Stéphane Bovon, l'un des fondateurs, Pierre-Yves Lador, le deuxième fondateur, et moi-même. Donc voilà, au départ on est parti avec une ligne éclatée où le but c'était d'avoir aucune ligne dans tous les sens. On disait un peu pour rigoler qu'on faisait du post-moderne, baroque, épique et punk, histoire de désorienter les gens qui essayaient de trouver du sens derrière ce que pouvait bien signifier un texte baroque ou pouvait signifier un texte punk. Et puis là ça fait 7 ans qu'on travaille et c'est un peu comme dans certaines visions un peu mystiques. Tous les 7 ans il y a des cycles qui se mettent en place et là on est juste en train d'opérer une nouvelle mue. Donc, on est en train de recentrer nos collections, on est en train de recentrer notre travail autour de certains artistes, de certains auteurs, de certains projets éditoriaux, une refonte complète de notre charte graphique et un peu de notre manière de nous positionner de manière un peu plus sérieuse.
Alors moi, j'avais fait connaissance de votre maison d'édition il y a déjà 2 années, je crois, de cela au Salon du Livre de Genève, où j'avais rencontré, donc on disait tout à l'heure en micro, Pierre-Yves Lador, justement, que j'avais moi-même découvert, on va dire, par le hasard des livres qu'on découvre selon les endroits et les contextes. Et donc du coup, justement Pierre-Yves Lador, tout à l'heure tu me disais hors micro qu'il y avait aussi le projet de lancer une association de ses amis, ouais. C'est ça?
Exactement.
Donc, peut-être en dire un mot et puis ouais. Après on évoquera 2 livres qu'on a choisis, extraits
ouais.
De votre
excellent,
stand.
Excellent, voilà. Ouais. Alors peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, Pierre-Yves Lador, c'est une figure un peu gigantesque de la littérature en Suisse romande, en Suisse francophone. C'est déjà celui qui a fait venir la bande dessinée à Lausanne. Donc il était directeur des bibliothèques municipales et à l'époque où la bande dessinée se résumait à Boulet-Bill, Tintin, il a fait rentrer les bandes dessinées pour le prêt, pour tout le monde, mais il a surtout instauré un centre d'archivage de bandes dessinées qui est assez unique au monde. Je crois qu'il y en a 3 entre Angoulême, Bruxelles et Lausanne. Et c'est aussi lui qui a fait rentrer les mauvais genres et les mauvais styles en Suisse romande. Donc à commencer par Boris Vian, mais tout ce qui est un peu ce qu'on a appelé la périphériscopie, qui est un peu la reprise suisse du surréalisme, et tout ce qui est érotique. Il a tout un ensemble de travail magnifique, une description de l'érotisme du corps à travers ça. Donc c'est vraiment un écrivain qui a parcouru tout un ensemble de générations. Maintenant, il arrive, je crois qu'il doit avoir 76 ans, et on remarque que c'est un auteur brillantissime, avec des phrases alambiquées, précieuses, avec des termes extrêmement bien choisis, mais qui n'est pas reconnu entre guillemets, par les officiels, les institutionnels, mais il a tout un ensemble de générations de jeunes derrière lui qui le soutiennent, et c'est dans ce sens-là où on a lancé l'association des amis de Pierre-Yves Lador cette année, dont le but est justement de faire connaître ses œuvres et, comme on dit, de diffuser l'esprit ladorien pour les siècles des siècles. Amen.
Parfait, tout un programme mais qui s'annonce, on l'espère, florissant et à l'image du bonhomme. Alors là, tu avais envie d'évoquer donc Gérimond, de vos dernières publications, puis après on viendra un deuxième titre que moi j'ai choisi comme ça un peu à la volée.
Ouais. Donc le cycle de Gérimond, c'est un projet assez fou qui part de mon associé Stéphane Bovon qui se rend compte qu'en Suisse, on a un peuple malheureux parce qu'on est un peuple où on n'a pas de grands récits. C'est-à-dire les Français ont Victor Hugo, les Misérables, les Espagnols ont Cervantes, les Portugais ont Pessoa, mais en Suisse, on aurait Ramu. Et pour certains, Ramu sonne un peu comme une soupe aux cailloux dans la bouche, et il a voulu écrire un véritable récit épique suisse, postmoderne. Donc il a prévu d'écrire 10 volumes de l'histoire de la Suisse, 100 ans après la grande montée des eaux, dont le premier tome a été réédité cette année.
Et d'ailleurs, je me permets de t'interrompre, oui. On retrouve dans le sous-titre, à la quatrième couverture, deux des adjectifs que tu as cités.
Exactement.
Comme étant des adjectifs définissant votre maison d'édition.
C'est ça, c'est ça. C'est ça. On est dans un jeu aussi de références, d'hypertextes entre les différents livres. Et ce qu'il y a d'amusant dans Gérimont, donc le principe c'est assez simple, il y a une montée des eaux, on va peut-être découvrir pourquoi, mais tout ce qui est en dessous de 1000 mètres est sous l'eau. Donc il reste des petits royaumes un peu alpins. La ville de La Chaux-de-Fonds devient La Chaude et devient un peu la ville new-yorkaise où se brassent toutes les cultures. La ville d'à côté, Le Loc, devient Le Loc et devient un peu les ghettos nègres où on réinvente le jazz. Et Gérimont, donc ce premier tome, se passe à Châteaudet qui devient Gérimont et qui devient une utopie quasiment parfaite. Où personne ne tue, où tout est bien organisé, une sorte de communisme qui a fait la synthèse entre les deux meilleurs systèmes théologiques, donc le protestantisme et l'islam, et où tout le monde a des prénoms albanais et des noms de famille bien de là-haut.
Très bien, alors ça donne vraiment envie de suivre cette aventure éditoriale qui débute. Et donc, est-ce qu'il a déjà un peu prévu le rythme de parution ou pas du tout?
Oui. Alors, donc, ce que j'ai pas dit, c'est que le cycle de Gérimont a commencé à être publié aux éditions Olivier Moratel. Et depuis cette année, on a repris la réédition de ces ouvrages chez Elie Sellas avec une nouvelle charte graphique. Et donc il y a 10 volumes qui sont prévus et chaque année, il y a ce qu'on appelle des spin-offs qui sortent. Cette année, le spin-off s'intitule « Le dragon de Gérimont » qui se passe dans l'univers de Gérimont, qui est écrit par des personnages de Gérimont et qui toujours fait un peu référence au monde d'aujourd'hui, à la petite Suisse.
Très bien, merci Alexandre. Et donc pour terminer ce petit entretien, je le répète, à la volée sur votre stand là aujourd'hui à Bienne, dans ce bel espace qu'on n'a pas nommé de la Maison Farel, qui est un espace culturel où il y a un café, puis là on a une vue sur la cour aussi, donc c'est un espace plutôt propice en tout cas aux échanges. Et donc là, le dernier ouvrage sur lequel j'aimerais qu'on s'arrête, c'est donc Le capitalisme à portée de main, donc, qui est signé par un collectif. Et donc là aussi, je vais te laisser le présenter, un livre, en tout cas par rapport à sa couverture, qui est déjà frappant.
Voilà, qui est déjà bien cartonné.
Voilà.
Donc c'est un livre, moi, que j'apprécie aussi beaucoup, qui est le fruit d'une coédition avec une maison d'édition belge, qui s'appelle La Cinquième Couche, qui est aussi une maison d'édition spécialisée dans la bande dessinée, qui est complètement cryptique, ouverte, innovante, voilà, vraiment dans cet esprit indé. Et donc, de plus en plus, on fait des coéditions. Donc ce texte-là, c'est une traduction de l'éditeur de La Cinquième Couche, William Henn, qui traduit des chroniques du Steers Group, qui est un groupe de libéraux de Chicago, et qui, chaque semaine, dans les journaux, délivre des messages pour s'enrichir. Hein, c'est-à-dire, leur grand discours, c'est que dans un siècle où les fake news sont partout, il n'y a qu'une seule idéologie qui serait vraiment sensée, celle du libéralisme, du néolibéralisme. Et on a voulu reprendre ça en les retraduisant pour montrer en fait l'absurdité qu'il peut y avoir qu'on pousse de ce discours, qu'on le pousse vraiment à son extrême. Il devient tellement caricatural qu'il se détruit par lui-même. C'est un peu ce que disait Cornelius Castoriadis, c'est-à-dire si le capitalisme s'appliquait à 100% son point de friction, il ne durait pas une seule journée. Donc c'est un peu cette idée-là qu'on a défendue. Et du coup, William Henn s'est amusé à travers des détournements d'images fameuses, connues, de grande iconographie, de détourner ses propos sur justement le capitalisme, justement pour redonner la tangente.
Et c'est vrai qu'il y a un peu une variété de d'illustrations,
variété,
du dessin, de la bande dessinée.
Exactement.
Et puis à chaque fois, une mise en page assez. Voilà, aussi du détournement de logo. Enfin, voilà.
Exactement. On est vraiment dans cette logique de la résistance par le détournement. Mmh.
Très bien. Bah, écoute, merci Alexandre pour ce petit aperçu de vos éditions. Et on vous souhaite d'autres belles rencontres sur ce stand. Et puis surtout, que les éditions continuent d'œuvrer, parce qu'on sait combien c'est aussi une forme de lutte d'être aujourd'hui éditeur, donc bravo en tout cas et merci d'avoir pris ce petit temps.
Super, merci à toi.